Shalom tout le monde, puisque c'est comme ça, je vous propose de passer à la page Tzadikret Amoud Aleph. Dans la page Tzadikret Amoud Aleph que nous avons vue la dernière fois, il était question donc des signes de la Géoula. Et là, je vous demande de passer vers le bas de la page. Rabbi Yehoshua, si vous prenez dans les lignes larges, vous comptez la 2, 4, 7e ligne, à la fin de la 7e ligne large, non, c'est ce que tu as, si tu prends à ta droite, il y a une ligne intermédiaire, moyenne, et il y a des lignes larges, n'est-ce pas? Donc il faut compter 7 à partir du haut, et on tombe sur Rabbi Yehoshua. Pas Daf Tzadikret, comment? Oui, Tzadikret Amoud Aleph. Tzadikret Amoud Aleph. Tzadikret Amoud Aleph. Et vous prenez la 7e ligne large. Comme vous avez en fait 3 sortes de lignes, vous avez des lignes étroites, une seule moyenne et 7 larges. Vous prenez la 7e large. À la fin de la ligne, il y a écrit Rabbi Yehoshua. C'est tout simple, n'est-ce pas? Vous prenez donc les lignes larges, vous comptez 7 lignes, et à la fin de la ligne, vous tombez sur Rabbi Yehoshua. Voilà. Rabbi Yehoshua ben Levi, Rameh. Rabbi Yehoshua ben Levi mettait en opposition deux textes. Ketiv, Be'aita. Urtiv, Ahishena. Il est dit en son temps, et il est dit j'accélérerai. De quoi s'agit-il? C'est dans le livre d'Isaïe, chapitre 60. Il est dit de cette manière, Akaton yela elef, le petit deviendra mille, Vatsahir legoy atsum, le plus jeune une grande nation puissante, Ani Hashem, je suis l'Éternel, Be'aita, en son temps, Ahishena, je l'accélérerai. Alors, l'expression elle-même est paradoxale. Soit en son temps, soit j'accélérerai, je hâterai. C'est-à-dire, soit la Géoula vient vite, soit elle vient en son temps. Soit, donc, elle est fixée pour un moment précis de l'histoire, quels que soient nos mérites, soit elle est avancée en fonction de nos actes. Alors, le Talmud explique, c'est ce que dit Rabbi Yehoshua ben Levi, « Zachou ahishena, lo zachou be'aita. » S'ils ont mérité, cela avancera vite. S'ils n'ont pas mérité, ça sera en son temps. Ce qui ressemble un peu à l'opinion de Rabbi Yehoshua, qu'on avait vu, qui était que la Géoula ne dépendait pas, en dernier recours, de la Teshuvah. Mais il y a un temps. Pourquoi est-ce qu'il y a un temps? Une date? C'est de la magie? Non, il y a une certaine épaisseur de temps qui fait qu'il y a un mérite de l'être. C'est-à-dire, le temps nous produit indépendamment de notre volonté. À notre insu, nous sommes transformés par le temps. Et donc vient un moment de l'histoire où le temps est achevé. Et donc c'est le moment d'être libéré. Jusque-là, vous avez suivi? Bon. En fait, je me suis trompé, c'est pas Rabbi Yehoshua, c'est Rabbi Alexandrie au nom de Rabbi Yehoshua ben Levi. J'aurais dû lire 3 mots plus tôt. Bon. Suite. Amar Rabbi Alexandre. Ce qui veut dire d'ailleurs qu'une certaine manière, la marche de l'histoire dans son ensemble ne dépend pas du libre arbitre de l'homme. Il y a une marche générale de l'histoire, et ce qu'on appelle le libre arbitre concerne essentiellement l'individu. Dans ce cas-là, pourquoi se fatiguer à faire avancer les choses? Eh bien, pour que ça aille plus vite. Quand les choses vont plus vite, elles vont également avec moins de douleur. Si on ne fait pas assez vite, ça prend du temps et c'est douloureux. C'est la raison pour laquelle il faut faire avancer les choses. Mais le cours général des choses est inexorable. Je continue le texte. Amar Rabbi Alexandri, Rabbi Yehoshua Ramé. Rabbi Alexandri nous dit que Rabbi Yehoshua ben Lévi mettait en opposition deux autres textes. Ketiv, il est dit, il est écrit. Va'aru im anene shemaya kebarena shate. C'est dans Daniel. Voici qu'avec les nuées du ciel arrive comme un homme. Urtiv, il est dit, ani verochev al chamor, pauvre et enfourchant un âne. Donc le Mashiach est décrit d'une part comme étant un personnage lumineux, mystique, très grand, qui vient avec les nuées du ciel. D'autre part, on le décrit comme étant un pauvre marchant sur un, enfourchant un âne. Donc c'est quelqu'un qui travaille dur. N'est-ce pas ? Ani verochev al chamor. Où est-ce qu'on en est ? Bon, on en est à un certain moment de la Géoula, c'est avancé. Où est-ce qu'on est dans la Gemara ? D'accord, on est à la page Tzadikret, Amoud Aleph. Oui, évidemment. D'ailleurs, je crois l'avoir dit suffisamment. Est-ce que tu n'as pas le texte ? C'est fort fâcheux. Est-ce que je peux t'aider en aucune façon ? Amène-moi tes feuilles, peut-être que je les trouverai. Tu n'as pas de Tzadikret Amoud Aleph ? C'est un drame. C'est bizarre, parce que la dernière fois, on avait étudié un texte de là-bas. Alors, que faire ? Bon, c'est comme ça. Alors, je reprends ici Amar Rabbi Alexandri, Rabbi Yehoshua ben Lévi Ramé. Rabbi Yehoshua ben Lévi mettait en opposition deux textes. Va'aru im anene shemaya kevarena shate. Voici qu'avec les nuées célestes arrive comme un homme. Urti, il est dit, ani verochev al chamor. C'est un pauvre enfourchant un âne. Dans Zechariah, chapitre 7. Zahou, imanene shemaya. S'ils ont mérité, ça se fera avec les nuées du ciel. Lo zahou, s'ils n'ont pas mérité, ani verochev al chamor. Un pauvre enfourchant un âne. Ça veut dire quoi, ça, avec les nuées du ciel ? Alors, il y a une lecture courante chez les religieux, qui est erronée, qui est que si le Mashiach vient avec les nuées du ciel, ça veut dire qu'il vient de façon miraculeuse. Et enfourchant un âne, ça veut dire par des voies naturelles. Alors, selon cette lecture, c'est mieux qu'il y ait un miracle qu'il n'y en ait pas. Oui ?
Ça ne pourrait pas être aussi un synonyme de vitesse, parce qu'on sait que les nuages vont plus vite quand même.
J'en suis pour l'instant à l'analyse de la lecture en usage chez certains religieux, qui est que la Géoula, donc la libération par des nuées du ciel, ça signifie le miracle. Et sur un âne, ça veut dire par la nature. Et donc, du point de vue de cette lecture-là, alors ça veut dire qu'il y a une préférence au miracle plutôt qu'à la nature. D'accord ? Ça, c'est, disons, la lecture de certains religieux. En fait, la Guémara ne dit rien de cela. Elle dit qu'il y a deux manières d'amener le Mashiach, soit de manière splendide, soit de manière médiocre. Mais la Guémara ne dit en fait rien de si c'est miraculeux ou pas. Nous savons par les prophètes qu'il est préférable qu'il y ait une Géoula naturelle que miraculeuse. Par exemple, c'est dans le livre de Yeshayahu, Isaïe. Il est dit « Kilo bechipazon tetzeu »« Vous ne sortirez pas avec précipitation. »« Uvimnusa lo telechun »« Vous n'irez pas en vous enfuyant. »« Ki olech lifnechem Hashem » Car il marche devant vous, Dieu. Uma Sifrem Elohe Yaakov, celui qui vous rassemble, Dieu de Jacob. Donc on voit que d'après le prophète, le fait qu'un processus se passe sans précipitation, or ce qui se passe sans précipitation, c'est la nature, c'est préférable à un processus précipité tel que celui que nous avons connu lors de l'Égypte, où il est dit que nous sommes sortis en précipitation. Oui, qu'est-ce qu'il y a ? Voilà. Et donc, c'est-à-dire que le terme précipitation, hippazon, apparaît en trois fois en tout et pour tout dans la Bible. Deux fois pour la sortie d'Égypte. Le premier, vous consommerez l'agneau pascal précipitamment. Dans Devarim, vous êtes sortis précipitamment d'Égypte. Et le troisième, c'est dans Isaïe, quand il est dit, vous ne sortirez pas en précipitation. Et ça veut dire qu'en fait, une Géoula miraculeuse est un problème parce qu'elle ne fait pas participer la nature. C'est comme si Dieu avait créé la nature et lui donné une gifle. C'est-à-dire, Dieu parle à la mer et lui dit, je t'ai créé, tu fais bien ton travail depuis plusieurs milliers d'années, mais aujourd'hui tu déranges parce que les enfants d'Israël doivent passer. Alors je te demande de te mettre à l'écart et plus vite que ça. Alors la mer s'exécute, mais elle est un peu blessée. Par contre, s'il y a une Géoula par les voies de la nature, alors il y a unité, l'unité monothéiste, qui fait participer toutes les lois de la nature à la Géoula. Oui. C'est encore pire. La nature n'a même pas son mot à dire. Ben alors dans ce cas-là, c'est encore pire. Ça veut dire que la nature, on ne lui a même pas demandé son avis. On lui a imposé d'être en dehors du coup. Il y a ici une atteinte à l'unité de la création. Oui ? Oui ? Non, le miracle, là, par définition, ne fait pas partie des lois de la nature. Sinon, ce n'est pas un miracle. Dans ce cas-là, ce n'est pas des lois de la nature. Une loi de la nature, c'est quelque chose qui revient en permanence. Quelque chose qui ne revient pas en permanence n'est pas une loi de la nature, c'est quelque chose qui contredit. D'après les lois de la nature telles que nous les connaissons, c'est ça qu'on appelle les lois de la nature, l'eau ne se fend pas. D'accord ? Donc, le miracle est une atteinte, une blessure. D'accord ? Contrairement aux tentatives de rationalisation que tu essaies de présenter, qui essaierait d'introduire toutes les exceptions dans le cadre de la loi. Ben non, ça ne marche pas. Et donc, comment ? Et donc, en fait, le fait qu'il y ait une Géoula par des voies naturelles, par l'assèchement des marées, par des voies de politique, des migrations, tout le reste, et bien tout cela fait partie de la réconciliation de l'homme et de Dieu avec la nature. Vous comprenez le principe. Top. Amarle Shabor Malka Lishmuel. Le roi Shabor, en persan on disait Sapor, a dit à Shmuel. Le roi Shabor était le roi de Perse. C'est lui qui, à l'époque, avait la domination politique sur Babel, là où était les Amoraïm. Alors, Shabor, le roi, dit à Shmuel, Amaritu Mashiach al-Hamra Ate. Vous dites que le Mashiach vient sur un âne. Ishdarle Susia Barka de Hitler. Je vais lui envoyer un de mes meilleurs chevaux. Pourquoi le pauvre serait-il porté sur un âne alors qu'on peut lui donner un cheval? Amarle, il lui a dit, Mi itlar barhivar gavne. Est-ce que tu en as un qui en a 100 couleurs? Qui en a 100 couleurs. C-E-N-T. 10 fois 10 égale 100. Donc, est-ce que tu as un cheval qui aurait 100 couleurs? C'est-à-dire, ce qu'il veut dire, l'âne du Mashiach, il est fait de 100 couleurs différentes. Petite remarque, le mot « sang » se dit en persan « hiwar ».« Hiwar », c'est ce qu'il y a écrit, « hiwar gavne ». Est-ce que tu en as un de 100 couleurs? Le problème, c'est que le mot « hiwar » en araméen, lui, veut dire « blanc ». De là est née l'imagerie populaire, comme quoi le Mashiach doit venir sur un âne blanc. Mais c'est une erreur. Ça vient du persan, hivar, qui veut dire sang. Et donc ce que demande Shmuel, est-ce que tu as un cheval qui a 100 couleurs comme l'âne du Mashiach? À quoi ça, qu'est-ce que ça peut nous faire que l'âne du Mashiach, il est 100 couleurs? Toutes les couleurs ensemble, ça fait blanc, c'est vrai. Mais il sera universel. C'est-à-dire, tout le monde peut se reconnaître dans le Mashiach, c'est ça que ça veut dire. C'est-à-dire, chacun voit sa couleur chez le Mashiach. Donc, il est de mes copains, il fait partie de mon parti à moi. D'accord? De ma branche, oui. Parce que le roi Chabor était un persan, justement. Voilà une chose bien extraordinaire. Comment peut... Monsieur est persan? Comment peut-on être persan? Rabbi Yehoshua ben Lévi. D'accord? Il y a des tas de mots dans la Guémara, il y a une quantité énorme de mots dans la Guémara. Il y a des mots grecs, latins, persans, araméens, arabes, hébreux. Il y a tout. Il y a le tout. Je n'ai pas vu encore de mots en chinois, mais ce n'est pas impossible. Oui ? Ah, ben parce que le Mashiach, il est au-dessus des couleurs, lui. L'âne, c'est celui qui le porte. C'est-à-dire les moyens à travers lesquels il arrive. Il y en a un qui dit le Mashiach, ça viendra par la Torah. Alors il cherche la couleur de Torah dans l'âne du Mashiach. L'autre dit mais non, ça viendra par la politique. Alors, il cherche la couleur de politique. L'autre dit par l'esthétique, etc. L'autre dit ça viendra par l'économie. Chacun son truc. Et chacun le retrouve dans ce qui porte le Mashiach. C'est-à-dire quoi, l'âne, c'est le véhicule, c'est ça que ça veut dire. D'accord? Donc tous les fous qui achètent des ânes blancs pour se prétendre le Mashiach, ben c'est râpé. Oui,
ils achètent
des ânes à 100 couleurs. Oui, des ânes à 100 couleurs. D'ailleurs, je vois déjà des gens en train d'en produire par... manipulation génétique et tout ça, on peut faire ça. Maintenant, toi, tu proposes la couleur. Ça, ouais, on peut le peindre. Un arlequin comme ça, ça serait joli. Pauvre âne. Qu'est-ce que vous êtes cruel avec les bêtes? Bon. Alors donc tout cela, c'est pour comprendre un peu la nature du Mashiach. Vous comprenez que en fait, le roi Chabor, lui, il est un peu en rivalité avec le Mashiach. Parce que si lui, il est roi de Perse, il n'est pas intéressé à être remplacé par un autre roi. Oui? Non, mon meilleur cheval. Il se moque. Il se moque. À moins qu'il comprenne que le Mashiach est possible par un retournement politique. C'est-à-dire, il y a cette idée que nous sommes partis en galoute par le biais de la politique. Les Romains étaient plus forts. Il peut très bien avoir un intérêt politique à un moment ou à un autre, des Romains eux-mêmes, de nous ramener sur notre terre. C'est ce qui s'est passé d'ailleurs. Par l'Occident. L'Occident a décidé un jour que c'était mieux qu'Israël et sa terre. Ne serait-ce que pour embêter l'Empire ottoman. D'accord? Donc, ce sont des conjonctures qui permettent le retour d'Israël. Et le roi Chabor comprend que ça peut se passer de cette manière. C'est ce qu'il dit à Shmuel. Et il dit, mais dans ce cas-là, pourquoi ne pas employer la technologie de pointe, le cheval? D'accord? Bon, là, nous continuons à quelque chose de plus fondamental. Rabbi Yehoshua ben Lévi, le même Rabbi Yehoshua ben Lévi qui est tellement préoccupé par ces histoires messianiques, Ashkach l'Eliaou a rencontré, a trouvé Eliaou. Eliaou, c'est le prophète. De'avar kaime apitra dimarta de Rabbi Shimon bar Yochai, qui était debout à l'entrée de la grotte de Rabbi Shimon bar Yochai. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi? Quel est le problème? Comment? Quel est le problème? Explique-moi. Je suis bête, explique-moi. Hein? Hein? Qui? Eliyahu Hanavi et Rabbi Shimon Bar Yochai et Rabbi Yehoshua ben Lévi. C'est ça ta question? Ah, mais Eliyahu Hanavi, c'est un ange. Donc il n'y a pas de problème. D'accord? Il rencontre donc Rabbi Yehoshua ben Lévi à l'entrée de la porte, à l'entrée de la grotte de Rabbi Shimon Bar Yochai. C'est à la grotte de Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est-à-dire le lieu des secrets de la Torah. C'est ça que ça veut dire. Ce qui prouve d'ailleurs que d'après le Talmud, il y avait une signification mystique à cet endroit. Contrairement à l'opinion des universitaires comme quoi Rabbi Shimon Bar Yochai n'aurait rien à voir avec le Zohar. Eh bien non, il y a eu quand même un rapport puisqu'on voit Eliyahu Hanavi à l'entrée de sa grotte. Et Rabbi Yehoshua ben Lévi est intéressé par ces rencontres mystiques. Oui, vas-y. Eliyahu Hanavi, ça veut dire la permanence. C'est-à-dire la permanence de la révélation. C'est-à-dire, Eliyahu Hanavi, il est parti dans les airs. Mais il arrive à chaque circoncision pour prouver que l'alliance a été respectée. D'accord ? Donc, il a une permanence de la présence en Israël, de la présence de la Shekhina, c'est ça qu'on appelle Eliyahu Hanavi. D'accord ? Et donc, Rabbi Yehoshua ben Lévi, qui est intéressé par l'éternité du peuple d'Israël, rencontre Eliyahu Hanavi dans le lieu des révélations mystiques, c'est-à-dire la grotte de Rabbi Shimon Bar Yochai.
C'est pas vraiment...
Non, c'est Eliyahu Hanavi. Mais il est là pour représenter la Shekhina. Amarle, si vous avez un entretien avec Eliyahu Hanavi, qu'est-ce que vous lui demandez? Eh bien, on va voir ce qu'il lui demande. Amarle, il lui dit: Athéna de Alma de Athé, est-ce que j'arriverai au monde à venir? Vous avez remarqué la question? Type de question assez bizarre. Rabbi Yehoshua ben Lévi est inquiet. Il se demande s'il a part au monde à venir. Bizarre. Quelqu'un de sa grandeur, on peut se dire, ça va de soi. Est-ce qu'il aurait des raisons particulières de le penser? À part ça, ce qui est encore plus incroyable, c'est que cette question est une question personnelle qui concerne sa propre personne à lui. Il n'a pas des questions un peu plus générales à poser? Bon, voyons la réponse. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi est-ce qu'il penserait qu'il ralentirait la Géoula? Est-ce que, donc, c'est-à-dire, tu penses qu'il a une mauvaise version de la Géoula, hein? C'est intéressant ce que tu dis, mais j'aimerais comprendre. D'où est-ce que tu as tiré que Rabbi Yehoshua ben Lévi avait peut-être une mauvaise version de la Géoula? Oui, non, mais ça suppose. En fait, tu es sur une piste que tu ne soupçonnes pas. Il y a chez Rabbi Yehoshua ben Lévi, effectivement, une interrogation par rapport à son aptitude à la Géoula. Pourquoi? Ben, c'est un texte qu'on avait étudié dans Berachot, page Dalet Amoud Bet. Vous vous rappelez de ça? À propos de la Tefila. Il y a tout un débat entre Rabbi Yehoshua ben Lévi, justement, et Rabbi Yochanan, pour savoir si on doit faire l'ismor geoula litfila le soir ou pas. C'est quoi l'ismor geoula litfila? Vous connaissez la bénédiction qui vient après le schéma qui finit Baruch Ata Hashem Gal Israël. Vous connaissez ce texte? Bon, ça s'appelle geoula. La tefila, c'est le Shmona Esre. Alors le matin, tout le monde est d'accord, on fait Baruch Ata Hashem Gal Israël, on commence tout de suite la Amida. Ça s'appelle l'ismor geoula litfila. C'est accoler la bénédiction de la délivrance à la prière. Maintenant, qu'est-ce qu'il en est pour Arvit? Pour Arvit, Rabbi Yehoshua ben Lévi pense que non, et Rabbi Yochanan pense que oui. C'est quoi Arvit? Alors la Gemara explique par la suite que Arvit, ça représente le début de la Géoula, tandis que le matin, ça représente la Géoula entière. Il y a un problème chez Rabbi Yehoshua ben Lévi à reconnaître la validité d'un commencement de Géoula. Par contre, Rabbi Yochanan, qui lui est sioniste, dit: je prie à celui qui est l'auteur du commencement. D'ailleurs, c'est un texte qu'on avait étudié ici. Tu te rappelles pas? Non. Pourtant, c'est pas la première fois que tu es au Maron Meir, franchement. Bon. Enfin, bref. Et là-bas, Rabbi Yochanan a une expression absolument incroyable. Il dit: Ezeu ben haolam haba, ze asomer geula litfila be'arvit. Qui est celui qui est fils du monde à venir? Celui qui accole la Géoula à la prière le soir. Qu'est-ce qui est visé par Rabbi Yochanan? Ben, Rabbi Yehoshua ben Lévi. C'est-à-dire, tu as une conception erronée de la Géoula, et donc tu n'es pas Ben Aholam Abba. Tu n'es pas fils du monde à venir. Vous comprenez que Rabbi Yehoshua ben Lévi, il comprend la problématique lancée à sa gueule par Rabbi Yochanan. Alors il demande à Eliyahu HaNavi, j'arrive au Aholam Abba? D'accord? Évidemment, c'est pour son clan. Oui. Alors, qu'est-ce qu'il lui répond, Eliyahu HaNavi? Réponse très aimable. Amarle, il lui a répondu, Imirtse Adonazé, si ce maître veut bien. Je veux dire, avec l'aide de Dieu. Be'azrat Hashem. Ce qui n'est pas très encourageant. Oui? Qu'il te parle du quête ici? Oui, mais ça n'a rien à voir avec le Olam Haba.
Non, mais si jamais il avait posé la question directement, comment...
J'en sais rien. N'essayons pas d'aller trop loin. D'accord? Alors il dit, Amarle imirtse Adonazé. Il lui dit, si ce maître veut bien. De quel maître parle-t-il? Amar Rabbi Yehoshua ben Lévi, il a dit, Shnaim ra'iti ve'kol shlosha shamati. J'ai vu deux, mais j'ai entendu la voix d'un troisième. C'est-à-dire, la Shekhina était présente également lors de cette rencontre, et c'est la Shekhina dont parle Eliyahu, qui dit « Si Dieu veut bien, alors tu auras le Olam Haba. » Réponse floue qui laisse Rabbi Yehoshua ben Lévi dans le doute. Deuxième question qu'il pose à Eliyahu. Amarle, il lui demande « Et Matate Mashiach, quand est-ce qu'il viendra le Messie ?» Ça, vous comprenez la hiérarchie des questions chez Rabbi Yehoshua ben Lévi. D'abord, il se préoccupe de son devenir personnel. Après, il s'occupe de la collectivité. Ça veut dire qu'il y a une conception même, disons, de la relation envers le divin qui passe par l'individu plus que par le collectif. Rabbi Yehoshua ben Lévi est un religieux, pas un national. Amarle, qu'est-ce qu'il lui répond, Eliyahu? Il lui dit... Shailé Lédidé, demande-lui à lui. Demande au Mashiach, pourquoi tu me demandes à moi? Vechayati, où est-ce qu'il est installé? Apitra de Karta, à l'entrée de la ville. La ville en question, il s'agit de Rome. Umaïsimane, comment est-ce que je vais le reconnaître? Il y a plein de gens qui sont assis à l'entrée de Rome. Mais bon, Yati Bene Anie Sovle Halaim. Il est installé parmi les pauvres qui sont atteints de maladies. Et tous enlèvent et rattachent leur bandage en une fois. Ihu sharehad ve'asirhad. Mais lui, il délie un bandage et il en renoue un autre. Amar dilma mibaina, parce qu'il se dit peut-être qu'on va me demander. Délah et Akev, et que je ne tarde pas. Bon, c'est-à-dire quoi que le Mashiach, il est malade. C'est-à-dire qu'il est séparé du reste du monde. Il est à part. Et la fin de sa souffrance, c'est la Géoula. Et si la Géoula vient, il ne faut pas perdre de temps, parce que si on perd le temps, le monde a changé. Le monde a changé, le Mashiach ne veut plus venir. Azal et Gabé, il est allé le voir. C'est-à-dire qu'elle est allée le voir. Vous croyez vraiment que Rabbi Yehoshua ben Lévi est parti à Rome pour aller chercher un malade parmi les au bas des murailles de Rome? Hein? Ah, il a atteint les portes de Rome. Le Ramban dit dans la disputation de Barcelone, il est là-bas parce qu'il attend la destruction de Rome. Il est là pour la détruire. Mais est-ce que vous pensez vraiment que Rabbi Yehoshua ben Lévi est allé à Rome chercher le Mashiach? C'est-à-dire qu'il a cherché à comprendre. C'est ça que ça veut dire. Le Maharal de Prague dit, Rabbi Yehoshua ben Lévi a essayé de comprendre.
La destruction de Rome, c'était
comment? Ça fait partie du travail. Amarle. Shalom alecha Rabbi Umori. Alors Rabbi Yehoshua ben Lévi dit au Mashiach, paix sur toi, mon maître, mon enseignant. Amarle, il lui répond, Shalom alecha bar Levi, la paix soit sur toi, fils de Lévi. Bizarre ces détails. Qu'est-ce qu'on s'en fiche de savoir s'il a dit bonjour, ça va, comment vas-tu au poil, tiens. Amarle, qu'est-ce qu'il y a encore? Et alors, il sait très bien qu'il est fils de Lévi, lui. Non, Rabbi Yehoshua ben Lévi, Lévi, c'est son père. Amarle, il lui demande, Léma Tatémar, quand est-ce que monsieur vient? Vous venez quand? Amarle, il lui a répondu, Hayom, aujourd'hui. Atal et Gabé Eliaou, il revient voir Eliaou. C'est-à-dire, entre-temps, Eliaou attend toujours à la porte de la grotte. Amarle, Amarlar, dit qu'est-ce qu'il t'a dit? Amarle, Amarli, Shalom Alecha Bar Levi. Il m'a dit, la paix soit sur toi, fils de Lévi. Pour la vie du Mashiach, il ne m'en parle pas. Amarle, il dit, ah, dans ce cas-là, Aftechach, Lachul Abur, L'Alma Deate. C'est-à-dire qu'il t'a promis, pour toi et pour ton père, le monde à venir. Et à la question qu'il avait eue au départ, le Mashiach lui donne la réponse. Toi et ton père, Yehoshua ben Lévi, donc Yehoshua et Lévi, vous avez part au monde à venir qui s'appelle Shalom, le monde de paix. Amarle, il lui répond, Shakure Kachakarbi, mais c'est un menteur. De Amarle Ayom Athena Veloata, puisqu'il a dit qu'il venait aujourd'hui et qu'il n'est pas venu. C'est-à-dire que le fait que le Mashiach ait menti ne dérange pas Rabbi Yehoshua ben Lévi tant que ça n'a pas de conséquences personnelles. Mais si le Mashiach est un menteur, alors la promesse du Olam Haba est peut-être aussi un mensonge. D'accord ? Donc on voit que la vie religieuse de Rabbi Yehoshua ben Lévi est concentrée autour de sa propre personne, de sa béatitude personnelle. Il lui répond, voici ce qu'il a voulu te dire. Hayom, aujourd'hui, c'est une citation d'un verset. Imbekolot Ishmaou, si vous entendez sa voix, c'est un verset dans Tehilim, aujourd'hui si vous écoutez sa voix. Donc il ne t'a pas menti, donc tu peux être tranquille, tu as ton Olam Haba. D'accord ? Mais tout ça met en évidence des choses très importantes, c'est qu'il y a une manière d'être tzaddik qui met au centre des préoccupations le devenir personnel, tandis que le devenir national fait partie de la périphérie de l'intérêt. Il y en a d'autres qui vous diront, non, ce qui est important, c'est la Géoula. Moi, mon devenir personnel est moins important. Je me rappelle qu'une fois, on a demandé à un Rosh Yeshiva important en Israël, on lui a demandé, maître, qu'est-ce que vous pensez de l'expression qui dit que l'État d'Israël, c'est le début de la délivrance, à Tralta de Géoula. Et il a répondu, ce n'est pas au centre de mes préoccupations. Ça veut dire que, je traduis ça maintenant en termes plus clairs, ce qui intéresse Dieu ne m'intéresse pas tellement. Je suis plutôt préoccupé par répondre à une opposition dans le texte du Rambam, un passage difficile de la Gemara. Ça, c'est important. Mais l'histoire, c'est un intérêt relatif pour moi. Il y a un petit problème, c'est que si vous lisez le Tanakh, vous voyez que le Tanakh est très intéressé justement par l'histoire. L'histoire, c'est 80% du Tanakh. Même plus, peut-être. Oui. On peut, oui, effectivement, ça en rapport avec ça. On peut dire simplement le religieux et le sioniste, tout simplement. C'est plus ça. Bon. Oui. Non. Le religieux, ça veut dire l'individuel. Sha'alu talmidav et Rabbi Yose ben Kisma. Les élèves de Rabbi Yose ben Kisma lui ont demandé. Ematai ben David ba. Quand vient le fils de David? Amar, il aura répondu. Mitiare ani shema tevakshu mimini ot. Je crains que vous ne me demandiez, que vous ne me demandez un signe. Amrulo, enanu mevakshim chaot. Ils ont dit, on ne te demandera pas un signe. Amar lahem, il aura répondu. Dirshiipol ashar azeh vibane viipol vibane viipol. Lorsque cette porte tombera, sera reconstruite, retombera et sera reconstruite, veipol et retombera, ven maspikin ivnoto, on n'aura pas le temps de la reconstruire, atche ben David ba, jusqu'à ce que le fils de David vienne. Donc il y a une porte. Il y avait d'ailleurs à Damas une porte comme ça qu'on disait être la porte dont parlait Rabbi Yossé Ben Kisma. Une porte qui doit tomber, être rétablie, retomber, rétablie, tomber, et alors le Mashiach vient. C'est-à-dire que les portes tombent. C'est quoi une porte d'abord? Un passage. D'un endroit à l'autre. C'est quoi la porte du monde? Le Beth Amikdash. Dis donc, le Beth Amikdash doit être détruit, reconstruit, redétruit, reconstruit, enfin bref, voilà, il y a des processus comme ça, de destruction, de reconstruction. Ça peut être le Beth Amikdash, ça peut être de tas de choses. Ça veut dire des institutions. Amroulo, Rabbeinu, ils lui ont dit, notre maître, donne-nous un signe. Amar lahem, lokach amar temli, shenatem vakshim eniot. C'est parce que vous m'avez dit que vous ne me demanderez pas de signe. C'est quoi demander un signe? C'est faire intervenir un élément extérieur. Quand on parle de Géoula, la Géoula est extérieure à l'état actuel du monde. Donc, naturellement, on demande des signes. C'est la raison pour laquelle, lorsque Moshe est venu, on lui a demandé des signes. D'accord? Rabbi Yossé Ben Kisma ne veut pas donner de signes. Pourquoi ça l'embête de donner un signe? Qu'il donne! Le problème, c'est que Rabbi Yossé Ben Kisma, lui, il est patient. Il ne veut pas que ça vienne tout de suite. Il sait que ça prendra du temps. Comment est-ce que je sais? Il y a, dans le traité de Avodah Zarah, un débat entre Rabbi Yossé Ben Kisma, le même qu'ici, et Rabbi Hanina Ben Teradion. Rabbi Hanina Ben Teradion donnait des cours de Torah au grand public à une époque où les Romains avaient interdit d'enseigner la Torah. Et Rabbi Yossé Ben Kisma lui dit, mais enfin tu es fou. C'est Dieu qui a instauré l'empire des Romains. Et Rabbi Hanina Ben Teradion dit, qu'est-ce que tu veux que je fasse? C'est la volonté de Dieu que j'enseigne la Torah. Il lui a répondu, Minashamaim Rahamu. On prendra en miséricorde dans le ciel. Rabbi Yossé Ben Kisma lui dit, mais enfin, je te dis des choses logiques, Dvarim Sheltam. Et toi, tu me dis, Minashamaim Rahamu, tu me dis que du ciel, on me prenne en miséricorde. Je ne serais pas étonné de voir qu'on te brûlera, toi et ton Sefer Torah. Et puis, peu de temps après, les Romains viennent, s'emparent de Rabbi Hanina Ben Teradion et le brûlent avec un Sefer Torah. Quand est-ce que ça s'est passé? Ça s'est passé le jour de l'enterrement de Rabbi Yossé Ben Kisma. Ils sont donc morts le même jour. Mais, dit la Gemara, lors de l'enterrement de Rabbi Yossé Ben Kisma, tous les dignitaires de Rome étaient présents, parce qu'il était proche du gouvernement romain. Et une fois qu'on avait fini d'enterrer Rabbi Yossé Ben Kisma, ils ont été brûlés, Rabbi Hanina Ben Teradion. Donc il y a un problème. Rabbi Yossé Ben Kisma, lui, n'est pas intéressé à lutter contre Rome. Pour lui, Rome, c'est l'ordre du monde actuel, il faut attendre. Donc, il est hésitant par rapport aux demandes de ses élèves qui disent « Donne-nous un signe. » Mais les élèves, eux, sont impatients. Ils demandent le signe. Amroulo, ils lui ont répondu « Ve'afalpiren, malgré tout. » C'est vrai, on t'a menti, on a dit qu'on ne te demanderait pas de signe, mais maintenant qu'on te le demande, alors est-ce que tu veux bien nous donner un signe? Maintenant, Rabbi Yossé Ben Kisma ne peut pas refuser. Pourquoi? Parce que s'il refuse, il désespère les élèves. Donc il doit leur donner le signe. Amar Lahem, il leur a dit, Imkar, si c'est ainsi. Yafrou memarat pamias, les dames, que l'eau de la source de pamias devienne du sang. Venefrou les dames, et c'est devenu du sang. C'est quoi la grotte de Pamias? C'est ce qu'on appelle aujourd'hui le Banias. Le Banias, c'est une des sources du Jourdain. Ça sort d'une grotte, effectivement. Au-dessus de cette grotte, il y avait une statue du dieu Pan. Un dieu grec, Pan. Pan. Donc Panéas, c'est-à-dire la grotte du dieu Pan. En hébreu, donc Pamias. Souvent, les Chachamim transformaient des noms. C'est dans Golan. Souvent, les Chachamim transformaient des noms des divinités pour ne pas les prononcer. Donc, de dire à la place de Panéas, ils disaient Pamias. Ce qui a donné chez les Arabes Banias, c'est dans Golan. C'est là. Comment? Ils n'ont pas le P. C'est-à-dire que tu dis qu'ils n'ont pas de parole. NM. Est-ce que tu affirmes? Mais en tout cas. Donc, même à Ram Pamias, les dames, Venefrou les dames. Donc, Rabbi Yosef ben Kisma dit, vous voulez que ça aille vite, vous voulez un signe, il y aura du sang. C'est ça qu'il dit. Bishat Pitirato, Amar Lahem, lorsqu'il était en train de mourir, il leur a dit, Ha'ami Kouli Aroni, enfoncez profondément mon cercueil. Pourquoi? She'en, Dekel ve dekel chez Babel, chez Ensus, chez le Parsi Nicharbo, il n'y aura pas un seul palmier en Babylonie au pied duquel ne sera pas attaché un cheval perse. Ven lecha kol Aaron ve Aaron chez Beret Israël, chez Ensus Madi Ochel Bo Teven. Il n'y aura pas un seul cercueil en Eretz Israël où les chevaux des Mèdes ne mangeront pas du foin. Oui. C'est-à-dire que Rabbi Yosef ben Kisma pense que le moment qui achèvera l'histoire, ça sera une invasion venant du côté des Perses, de l'Iran, tout comme ça. C'est comme ça que ça va se passer. Donc il dit, je demande à être enterré profondément pour qu'on ne mange pas, pour que mon cercueil ne devienne pas une mangeoire. Ça veut dire en fait que Rabbi Yosef ben Kisma sait qu'un jour viendra où il y aura une sorte de conflit gigantesque. D'ailleurs, il y a eu plusieurs fois des choses comme ça. Par exemple, en l'an 612, il y a eu une invasion de la Palestine par les Perses, qui ont conquis Eretz Israël des mains des Byzantins. Des Juifs, d'ailleurs, ont aidé à la révolte. Il y a eu des massacres de chrétiens absolument incroyables. Et puis, 2 ans plus tard, les Byzantins ont reconquis Jérusalem, ce qui est très embêtant parce qu'ils se sont vengés des Juifs. Et donc, les Juifs ont été persécutés après cette histoire. C'est la raison pour laquelle, lorsque quelques années plus tard sont arrivés les Arabes, ils ont conquis Jérusalem, les Juifs les ont à nouveau aidés. Parce qu'ils étaient sous la domination violente des Perses, des Byzantins. Et le calife Omar, qui était à l'époque à Médine, les chrétiens ont dit, nous sommes prêts à capituler à 2 conditions. Que ce soit le calife lui-même qui vienne vers Jérusalem, c'est ce qu'a fait Omar, et que vous interdisez aux Juifs de revenir à Jérusalem. Les Arabes ont promis. Une fois Omar entré dans la ville de Jérusalem, il appelle les Juifs à revenir pour embêter les chrétiens. Petite remarque d'ailleurs, le fameux Omar, lorsqu'il a décidé qu'il fallait construire une mosquée sur le mont du Temple, a demandé à un de ses accompagnateurs, qui était un musulman d'origine juive, où est-ce qu'il faut mettre la mosquée. Et le juif lui a dit, mets-la du côté nord. Comme ça, lorsqu'on priera vers la Mecque, on priera aussi vers le temple. Et Omar lui a dit, c'est parce que tu es d'origine juive que tu dis ça. Tu veux donner de l'importance au lieu du temple des Juifs. Eh bien non, la mosquée sera au sud. Et c'est pour ça que la prière des musulmans sur le mont du temple se fait en tournant le dos à l'emplacement du temple et se tournant vers la Mecque. Ce qui prouve que le temple de Jérusalem n'est pas un lieu saint de l'islam. Ça, fallait-il le faire remarquer, donc je le. Bon. Soit dit en passant, ça prouve que Omar savait qu'il y avait eu un temple là-bas. Contrairement à l'affirmation palestinienne actuelle, comme quoi il n'y a jamais eu de temple sur le Haram al-Sharif. Ce qui est contraire à la tradition musulmane elle-même. Bon. Donc il y a eu plusieurs fois dans l'histoire des tentatives d'invasion d'Eretz Israël du côté perse. Par exemple, lors des invasions mongoles. Et aujourd'hui aussi, il y a des tentatives de bombes atomiques du côté perse sur Eretz Israël. En tout cas, ce motif revient souvent dans l'histoire. Hein? Qu'est-ce que tu dis?
Les invasions
mongoles? Oui, mongoles, elles sont venues d'Iran. D'ailleurs, il y a dans le traité de Yoma un débat pour savoir qui va gagner la guerre finale. Est-ce que ce sera Rome qui va vaincre les Perses ou est-ce que ce sont les Perses qui vont vaincre les Romains? Il y a deux opinions. C'est-à-dire, est-ce que c'est l'Occident qui est le plus fort et qui finalement va vaincre l'Orient ou est-ce que c'est l'Orient qui va vaincre l'Occident? Oui, c'était un début. C'est un début comme ça. Il y a eu un moment où les Perses avaient vaincu les Grecs. N'est-ce pas? Démosthène et Échille. Et Échille. En tout cas, oui. Hein?
Les invasions mongoles ont passé en partie.
Ils sont venus du côté perse. Ils sont venus d'Orient. En tout cas, donc, il y a eu un débat dans le traité de Yoma. L'opinion centrale, c'est que ce sont les Romains qui vont gagner. Finalement, c'est l'Occident. Regardez ce que dit ici la Guémara. Amar Rav, Rav dit, et ça semble s'opposer à ce que dit Rabbi Yosef ben Kisma, En ben David ba, achetit pachet amalchut al Israël tishar chodashim. Le fils de David, David ne viendra que lorsque l'empire, il faut dire ici l'empire de Rome, ça a été censuré, jusqu'à ce que l'empire de Rome s'étende sur Israël pendant 9 mois. Chez Nehemar, il y en a qui disent d'ailleurs, non pas sur Israël, regardez dans la marge à gauche, écrit « Al-Kol Ha'olam Kulo » sur le monde entier. Il y a une version qui dit « Jusqu'à ce que Rome s'empare du monde entier. » Nitisha Chodashim pendant 9 mois, chez Nehemar, ainsi qu'il est dit « La chenitene ma'det yoleda yalada » C'est pourquoi il les donnera dans leurs mains le temps d'une accoucheuse d'accoucher. « Veyeterichav yeshuvun al-beni Israël » Et alors le reste de ses frères reviendront avec les enfants d'Israël. Alors ça veut dire que, en fait, 9 mois, ça veut dire une gestation. C'est le temps de la gestation. Et le professeur Levinas disait que ça voulait dire qu'il faut une sorte d'occidentalisation planétaire comme prélude au messianisme d'Israël. C'est-à-dire, le monde est trop barbare pour être attentif au discours messianique. Il faut donc passer par une sorte d'élimination de la barbarie primitive par l'Occident, qui s'empare de la planète tout entière. Et une fois que c'est fait, alors le peuple d'Israël peut revenir à sa terre. On peut dire que d'une certaine manière, ça a été fait à l'époque de la colonisation. Il y a eu un moment où les pays d'Europe tenaient en leurs mains 95% du globe terrestre. Oui. En quoi l'Occident est moins barbare que l'Orient? Le Midrash dit parce qu'ils respectent la loi. Ils ont inventé le droit. Alors, le droit n'est pas moral, mais c'est un droit quand même. Comme on dit, dura lex, sed lex. La loi est dure, mais c'est la loi. Donc, il y a un début de respect des valeurs. Non, il y a des lois. C'est pas la même chose. Le droit est une sorte d'entité abstraite. C'est une invention des Romains, ça. C'est eux qui ont inventé le droit. D'accord? Et donc, de ce point de vue-là, il y a quelque chose de préférable chez l'Occident. Évidemment, ça ne veut pas dire que ce n'est pas des salauds. On a vu ce qu'ils ont fait. Mais il y a ce point de vue-là. Voilà. Hein ? La colonisation a été une époque où l'Occident, il y avait quelque chose comme à peu près 8 pays d'Europe qui ont dominé 95% du globe terrestre. Donc, ça s'est réalisé. Il y a eu un moment où ça s'est fait. Il y a aussi ça, mais... Pourquoi je m'intéresse précisément à la colonisation ? Parce que après la colonisation, il y a eu l'État d'Israël. Donc, ça semble aller dans ce sens-là. Voilà. Ben, c'est tout pour aujourd'hui.